Kiss and Tales, une chanson de Saint Prince ou Saint Prince.
Je pense que c'est Saint-Prince, oui. Prince. Oui, oui. Ben, de toute façon, Saint-Prince, Saint-Prince, il est sanctifié pareil. Ben oui, ben, on est loin d'être sanctifié aujourd'hui parce que ben, dans la une hein, du devoir, en fait, en une, dans les, plusieurs des quotidiens aujourd'hui, on parle de cette étude qui a été faite par la Fédération de l'enseignement du Québec qui... autonome de l'enseignement, je devrais dire, qui révèle qu'il y a une hausse de la misogynie, de l'homophobie, en fait, de plein de choses pas bien fun dans nos écoles. Et ça donne que demain, c'est la journée du chandail rose, un sujet qui touche le cœur de nos écoles et de notre société, un sujet qui, donc, la lutte contre l'intimidation. Tout ça arrive en même temps. Et pour en discuter, je vous le dis tout de suite, on avait prévu cette entrevue-là d'avance et puis cette étude-là est arrivée comme par hasard en même temps. On reçoit Pascal Vaillancourt, qui est directeur général d'Interligne, un organisme de première ligne dédié au mieux-être des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Pascal Vaillancourt, bonjour.
Bonjour.
Ben, avant de parler de toutes ces choses bien négatives, on peut peut-être parler de l'origine là, de cette mère rose qu'on appelle la journée du chandail rose. Ça a débuté en 2007 en Nouvelle-Écosse?
Oui, exactement, en Nouvelle-Écosse. C'est d'ailleurs né d'une situation où un jeune a vécu de l'intimidation et ses collègues, pour le soutenir, ont porté un chandail rose pour dire non à l'intimidation. Donc, c'est un geste de solidarité à la base.
Un beau geste. La campagne, donc, en 2026, c'est Ensemble, ça fait la différence. Comment cette collaboration avec le community queer du Collège de Montréal et l'artiste Marine Beringer, ça a vu le jour, là?
En fait, depuis, on est à la cinquième édition chez Interligne du Chandail Rose, en fait, où on a décidé d'impliquer des jeunes dans la discussion. Donc, à chaque année, on trouve un nouveau comité, on trouve des jeunes qui sont motivés à y participer. Et dans le fond, nous, c'est notre personne qui va dans les écoles, dans les cégeps, qui forme les gens, qui a fait le lien avec ce comité-là. Et l'idée, en fait, c'est de mettre les cerveaux des jeunes autour d'une table puis discuter du concept de l'illustration qu'on va mettre sur le Chandail Rose à chaque année, qui l'illustration qui va correspondre à un message de solidarité, justement, pour lutter contre l'intimidation.
Plus que jamais nécessaire, et on y va. Le chercheur Francis Dupuis-Déry souligne une hausse de la misogynie, de la transphobie à l'école, des gestes portés presque exclusivement par des garçons. C'est un constat qu'on fait aussi à Interligne?
Oui, 100 %. Ça fait déjà au moins 2-3 ans là, qu'on voit une montée assez fulgurante des comportements masculinistes ou des comportements d'homophobes ou transphobes dans nos écoles. Et c'est vrai que nous aussi, on avait observé que c'est majoritairement des garçons qui ont ce genre de propos-là. Pas que, mais majoritairement. Et c'est un fléau qui est de plus en plus répandu. Là.
On parle de misogynie d'une part, hein, des enseignantes. Je pense que je ne vais pas répéter ce que j'ai lu parce qu'on a assez vu de ces choses-là, mais des commentaires très désobligeants envers les enseignantes, mais aussi envers les communautés queer et des gestes aussi de violence, de vandalisme, des drapeaux qui ont été brûlés. On a vu ça dans les médias. Puis selon Francis Dupuis-Déry, il y aurait eu une vingtaine d'incidents l'année dernière où on a fait du vandalisme envers les communautés queer, envers les groupes queer. Comment on explique ça?
C'est très difficile à expliquer. Chez Interligne, c'est sûr qu'on a notre propre théorie, on regarde ça, et on le ressent aussi à la ligne d'écoute, hein, je veux le nommer, là, parce qu'on aura 20 000 recours à nos services, et nous, ce qu'on observe, avant, on avait beaucoup plus d'appels qui touchaient les coming out, l'accompagnement de gens qui vivaient certaines difficultés en lien avec ça. Là, à l'heure actuelle, la violence est surreprésentée à la ligne d'écoute, la discrimination est représentée. Fait qu'on est dans une société qui va pas très bien à l'heure actuelle, où les discours violents sont décomplexés. Nous, ce qu'on a comme hypothèse, en fait, c'est qu'ils sont décomplexés d'abord dans les réseaux sociaux. En ce moment, les réseaux sociaux, c'est quand même un fléau. Il y a énormément de
violence. Il y a zéro modération ou presque.
Zéro modération. Les commentaires sont d'une extrême violence. On voit des choses antisémites, des choses masculinistes. C'est vraiment très, très grave. Puis après ça, bien, il y a tout l'aspect des institutions dans nos organisations, le politique, les médias, la façon dont les nouvelles sont traitées. Est-ce qu'on traite les nouvelles pour faire du clic ou on traite les nouvelles pour rapporter des sujets de façon neutre?
Le fameux engagement.
Le fameux engagement, entre autres. Et aussi, bien, on a vu dans les dernières années des politiciens qui se sont quand même, qui ont nommé des problématiques avec les woke, alors que les woke, leur désir ultime, c'est d'être là pour la société. responsabilité, d'être là pour les individus, de prendre soin collectivement des gens. On a vu des discours aussi assez problématiques sur les enjeux trans. En fait, on voit beaucoup de gens ignorants qui se positionnent sur des enjeux qu'ils ne connaissent pas à l'heure actuelle, tant dans la sphère politique que dans les médias sociaux puis les médias traditionnels. Donc ça, ça décomplexe les discours.
Une espèce de diabolisation hein, des minorités trans.
100%. Les personnes trans sont les plus marginalisées à l'heure actuelle, sont les gens qui sont le plus affectés par le climat de violence dans les communautés queer. Puis tu sais, on parlait de misogynie, mais il faut faire le lien là, entre la misogynie puis les enjeux queer. Là. Souvent, là, dans une société, quand les droits des femmes avancent, bien, les droits des communautés queer vont avancer aussi par la suite. Mais quand les droits des femmes reculent, on peut penser que les droits queer sont en train de reculer aussi. Donc, tout ça, c'est interrelié, là.
Il y a quand même une montée du discours masculiniste sur les réseaux sociaux. Je pense à Andrew Tate, qui est quand même assez populaire auprès des jeunes et qui a des propos très problématiques. Et ces propos-là sont reproduits souvent dans l'école.
Oui, sont reproduits dans l'école et c'est quand même assez difficile à recevoir à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous avez vu récemment aussi, il y a eu l'étude du Grimorial ici, là, qui ont consulté 35 000 jeunes à travers la province afin de voir leur niveau d'aisance avec l'homosexualité. On ne parle même pas de la transidentité ou transsexualité. Donc, on voit ici là, qu'il y a un grand recul. Puis c'est une des rares fois où on a vu que les générations de jeunes sont à la limite plus fermées d'esprit que leurs parents. Donc, c'est très inquiétant.
Bon, il y a des élus qui vont pointer du doigt, puis ça a déjà été fait et ça va être fait à nouveau, qui pointent du doigt l'immigration ou la religion comme source d'intolérance. Mais l'étude là, de M. Dupuy-Déry dit pas ça. Selon l'expertise d'Interling, là, est-ce qu'on peut pointer du doigt la religion et ou l'immigration?
Non. Chez nous, en tout cas, c'est pas l'observation qu'on fait. On va dans les classes pendant toute une année. En fait, à chaque année, on a un employé, deux employés qui vont faire le tour des classes. Et l'homophobie, la transphobie, on la voit partout. On la voit dans les communautés francophones du Québec. On la voit aussi, évidemment, dans l'immigration. Mais ce n'est pas vrai que l'immigration est surreprésentée dans l'homophobie et la transphobie. On le voit dans des gens qui sont nés ici. On le voit dans des gens qui ont été élevés ici avec les valeurs québécoises. Et c'est un problème qui est beaucoup plus inquiétant que c'est pas seulement l'immigration. C'est facile d'attaquer l'immigration, c'est souvent un premier réflexe qu'on a. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que les jeunes garçons ou certaines jeunes femmes aussi endossent ces discours-là, même s'ils sont nés ici, qu'ils viennent d'ici, que leurs parents viennent d'ici. Donc, c'est un problème-là.
Bon, c'est pas la première étude. Hein. On a cité tout à l'heure Grimorial, puis eux se sont fiés sur le fait qu'ils envoient des gens dans les écoles continuellement là, pour faire de la formation. Et vos études à vous, c'est pas nouveau. Là. Il y a eu aussi des sondages qui sont sortis. Et on apprend là, que, je pense que ça vient d'Interling. Tu me corrigerais là-dessus, Pascal. On sait que 2 jeunes sur 3 ont déjà été victimes d'harcèlement en ligne. Là, on sort de l'école, c'est parce que ça se poursuit en ligne. En quoi la cyberintimidation change-t-elle la donne pour les jeunes issus de des communautés LGBTQ+?
La donnée, je corrige, elle ne vient pas d'Interling, je pense qu'elle vient du Gris.
Elle vient du Gris, si je ne me trompe pas, oui.
Mais nous, ce qu'on observe, en fait, c'est que, dans le fond, la cyberintimidation, le fait que ça se rende, c'est sur les réseaux sociaux, c'est que maintenant, les jeunes n'ont plus de pause. Par le passé, là, moi, quand j'étais à l'école, il n'y en avait pas de médias sociaux. Donc, si j'avais de l'intimidation à l'école, quand j'arrivais chez moi, au moins, j'arrivais dans un environnement qui était sécuritaire. Mais là, maintenant, les jeunes ont facilement accès à un cellulaire. Les parents donnent des cellulaires très rapidement. Ils ont facilement accès aux écrans et aux médias sociaux à la maison. Ce qui fait que quand ils arrivent à la maison, ils peuvent recevoir des commentaires haineux sur les réseaux sociaux pendant qu'ils sont dans leur environnement sécuritaire. Le petit moment où ils pourraient décrocher et construire leur relation familiale ou rester autour de leur nid familial, bien, ils continuent de recevoir de l'intimidation dans ces contextes-là.
Boy. Bon, allez, c'est la journée du chandail rose. C'est une journée quand même, c'est positif, c'est le fun. Mais quelle sorte d'action concrète proposez-vous au-delà donc, de porter le chandail rose aujourd'hui?
Bien, je veux quand même nommer aussi que la journée du chandail rose, ce qui est intéressant, c'est que oui, on voit une observation, on observe une augmentation de la haine et tout ça, mais on observe aussi cette année, de notre côté, une hausse du soutien à cette journée-là. On a, dans la première semaine, on avait vendu plus de 600 chandails. Donc, c'est quand même une belle corrélation. Évidemment, on espère que la haine va diminuer, mais c'est quand même quelque chose de positif de voir qu'il y a encore des gens qui se tiennent et qui se solidarisent autour de ces enjeux-là.
Ben, je vais porter le mien premier demain pour les mises en animation de cette émission. Pour les élèves qui sont aujourd'hui témoins d'actes d'intimidation, quels sont les gestes simples et immédiats recommandés pour intervenir sans se mettre en danger?
Oui, ben, sans se mettre en danger, en fait, je pense que l'idée aussi parfois, c'est d'aller soutenir les personnes victimes une fois que la situation est passée. C'est aussi de la rapporter. Évidemment, on n'est pas obligé de la rapporter de façon... on n'est pas obligé de l'arrêter dans l'immédiat si on pense qu'on se met en danger, mais on peut aller voir un adulte après, on peut aller voir une personne qui peut soutenir. L'intimidation, c'est grave, ça peut mener jusqu'à des idéations suicidaires, mm-hmm. puis des conséquences graves pour les personnes. Et ce n'est pas irréversible. Quand on vieillit, on s'en rend compte. Mais donc, de ne pas rester seul là-dedans, de ne pas laisser les gens s'isoler, parce que c'est ça qui fait des grands dommages.
Je vais faire une petite parenthèse pour parler personnellement. J'ai vécu ça toute mon école secondaire. C'était vraiment pas drôle. Et oui, on a vraiment... On pense que la vie est finie. Ça ne... Mais bon, je suis quand même... presque 65 ans, encore animateur de radio. Fait que les choses fonctionnent quelque part.
C'est vrai. C'est ça. C'est difficile de se projeter dans l'avenir quand ça nous arrive.
Ouais.
Par contre, il y a toujours un avenir.
Alors, les gens qui veulent se procurer le T-shirt officiel, parce qu'on peut prendre n'importe quel T-shirt rose, mais si on veut le T-shirt officiel, on le fait comment?
Le T-shirt officiel, c'est chez Interligne. Il faut aller sur le site interligne.co. Les gens vont pouvoir commander leur T-shirt à travers notre boutique en ligne. Mais là, la journée, c'est demain.
C'est demain,
donc,
oui.
La livraison, ça risque d'être difficile. Toutefois, si vous avez un chandail rose à la maison, il faut le porter. On vous invite à prendre une photo de vous et la publier sur les réseaux sociaux et mettre Interligne, en commercial Interligne, barre en bas, CO. Sur Instagram et le mot-clic « Journée du chandail rose » ou le mot-clic « Ensemble contre l'intimidation ». Donc, c'est la façon dont on peut se solidariser ensemble et montrer qu'on est plus fort que tout ça.
Ben oui, ben merci Pascal Varacourt. Puis je pense qu'on a vraiment besoin de faire ça cette année, plus que jamais, avec ce qu'on vient d'entendre. Mais merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de passer à l'émission. Alors, je rappelle donc que le 25 février, demain, c'est de porter du rose. C'est plus qu'un choix vestimentaire, c'est un engagement pour créer des milieux sécuritaires pour tous les élèves, peu importe leur identité. Après la pause, nous allons avoir notre chronique de psychologie sociale. On va parler de l'espoir. Puis après, on va parler de finances. Si vous êtes une personne en situation de handicap, bien, il y a des crédits d'impôt, des réductions d'impôt auxquelles vous avez droit. Et on va vous dire lesquels et on va vous dire comment faire. De notre mieux, on n'est pas des experts, mais quand même, on a des experts qui vont en parler. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, bien, c'est frisqué. C'est froid, carrément, hein? Au Québec, puis en Ontario, puis dans l'Ouest et dans les provinces de l'Atlantique, ben, vous êtes en train de passer là, enfin cette tempête de neige. Il y en a une autre là, dans le nord de l'Ontario aussi. Puis je vais le dire pour les gens qui nous écoutent à Vancouver, hey, il va faire soleil aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que je vous annonce ça avec 8 degrés. Après la pause, donc, tout ça.